en juin, en bravant le beau temps, selon la formule consacrée, d'avoir et les travaux, malgré les travaux. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez témoigner auprès de l'intervenant que je présenterai tout à l'heure que l'affluence est d'ordinaire beaucoup plus importante. Et là, nous jouons de malchance entre le beau temps, mais on ne va pas se plaindre, et puis les travaux qui ont apparemment compliqué l'accessibilité. Et nul doute qu'on aura quelques retardataires, mais ils seront les bienvenus. Merci à vous pour d'être venus à cette deuxième conférence d'un cycle qui prolonge le travail qui a été mené, là je parle sous le contrôle de Jam Renaud, mené depuis 2 ans sur le thème de Poitiers, cité solidaire du savoir. Et cette soirée est l'occasion de prolonger la discussion, entamée dans le cadre du Conseil de développement responsable présidé par Jam Renaud et avec le concours de l'espace Mendès France, représenté ici par Anne Bonnefoy qui parle à son éminent voisin et qu'elle soit remerciée de son concours. Alors, je ne rappelle pas le programme dans son intégralité. Je vous invite à vous procurer ces flyers, comme on dit en beau français. Comme vous l'aurez compris, le thème de ce cycle est d'examiner la possibilité, les moyens de faire travailler et de reconnaître, de valoriser, de promouvoir toutes les formes de savoir et de connaissances qui émergent sur un territoire, comme par exemple une agglomération de Poitiers, pour ne prendre que cet exemple. Comment faire travailler ensemble les producteurs de savoir savant, de producteurs de savoir profane. C'est un peu cela que nous avions en tête en organisant ce cycle, et c'est ce sur quoi nous avons travaillé dès la première séance avec Pierre Vels, qui est un ingénieur spécialiste de l'économie territoriale et qui nous a expliqué comment on peut promouvoir, faire davantage travailler ensemble ceux qui produisent de la recherche académique ou dans le cadre de la recherche-développement portée par les entreprises. Et il le faisait à la lumière d'un cluster, selon un autre beau terme français, et pas n'importe lesquels, celui qu'il préside dans le sud-ouest de Paris, sur le plateau de Saclay. Comment on peut faire travailler ensemble des gens qui, d'univers très différents, de laboratoires privés, publics, d'entreprises, d'universités, de grandes écoles, etc. Bien évidemment, quand on s'intéresse aux nouvelles formes de savoir, on ne peut pas ne pas s'intéresser... J'ai pas terminé. Merci. Voilà. Bon, c'est un enregistrement. Voilà. Et vous y aurez droit, Roger. Si. Et comment, bien évidemment, on ne peut pas ne pas s'intéresser au potentiel qu'offre le numérique. Ça sera l'objet de la toute dernière séance au mois de novembre. Hein. On programme les choses très loin ici à Poitiers. Auparavant, on s'intéressera au savoir, aux connaissances qui émergent sur un territoire, qui sont portées par des communs de mortels dans des banlieues, des quartiers de banlieue, grâce à Marc Hatzfeld, qui est un anthropologue et qui s'intéresse depuis des années à tous ces savoirs, ces formes de culture qui émergent sur des territoires apparemment relégués, marqués du sceau de la précarité et où pourtant des choses se font, se créent. Et il sera associé, son nom m'échappe, voilà, Claire Hubert Suffren, qui est la fondatrice, il y a de ça 40 ans, des réseaux d'échange réciproques de savoir. Vous avez des savoirs, vous savez comment jouer à la guitare, et bien vous pouvez échanger ce savoir contre un autre savoir dans le cadre de ces réseaux. Ça sera la séance de septembre. Mais en attendant, on va examiner, essayer de manipuler, de triturer cette notion dont tout le monde a dû entendre parler, qui peut paraître un peu absconce, c'est celle d'économie de la connaissance, on dit aussi société de la connaissance. C'est des notions qui ont été portées notamment par l'Europe, qui avait pour ambition de faire du vieux continent l'économie de la connaissance du 21e siècle. Voilà, je vois que Jam Renaud tiquer, parce qu'il y a eu plus de discours que de réalité. Et si nous vous avons demandé, Roger Su, de venir, si nous vous avons proposé de venir, c'est que ces notions d'économie et de société de la connaissance sont au cœur de votre dernier ouvrage. Sommes-nous Sommes-nous vraiment prêts à changer le social au cœur de l'économie, publié chez cette très belle maison d'édition qui s'appelle Des liens qui libèrent, qui est un nom que je trouve remarquable. Je précise que vous enseignez à Paris 5 Sorbonne et vous êtes associé, et je crois que c'est important de le préciser, aux travaux de la Fonda, qui est une association qui valorise, promeut les réflexions engagées sur le thème de l'association. On en touchera un mot. Permettez-moi, et je terminerai la présentation, la trop longue présentation, par dire que j'ai fait le calcul, ça fait une quinzaine d'années que je suis vos travaux. Et je me suis souvenu qu'en 1997, je vous avais sollicité pour une interview sur le thème des rythmes temporels, des différents rythmes de temps qui caractérisent nos modes de vie, et ce à la lumière d'un livre que vous aviez publié en 1995 sur le thème du temps et ordre social. Et depuis beaucoup d'autres ouvrages, je ne les citerai pas tous. La société civile face au pouvoir, publié comment on presse de Sciences Po, je ne les cite pas dans l'ordre. Renouer le lien social, liberté, égalité, association, chez Odile Jacob en 2001. La richesse des hommes vers l'économie quaternaire en 97. Je ne les ai pas cités dans l'ordre parce que, peut-être à dessein, c'est parce que je me suis rendu compte que à chaque fois vous ouvriez sur une réflexion nouvelle, mais en même temps vous repreniez tel un article des notions, notamment celle d'économie quaternaire, etc. Et au fond, il y a une continuité, il y a une fidélité qui se retrouve dans le dernier livre que j'ai cité et dans lequel, et j'en aurais terminé par là, où vous montrez ce décalage qu'il y a entre cette société, cette économie de la connaissance à l'œuvre sur les territoires au quotidien, et puis les catégories avec lesquelles on continue à appréhender la société et qui nous empêchent de voir le changement. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse rebondir sur cette peut-être ultime présentation. Alors, j'aurais aimé quand même, pour vous mettre en appétit, citer juste un passage où vous définissez la connaissance. La connaissance peut être bien évidemment scientifique, mais elle n'est pas seulement justement scientifique, elle est aussi émotionnelle, sensible, artistique. C'est dire si la société de la connaissance et l'économie de la connaissance que vous allez nous décrire est à des années-lumière de celle que certaines institutions européennes ont pu porter il y a de ça une dizaine d'années. Voilà, vous avez une quarantaine de minutes pour nous faire découvrir le rôle, les formes de la connaissance en ce début du XXIe siècle. Merci par avance et on vous retrouve pour un échange avec la salle.
Bien, merci, merci de votre invitation. Merci à ceux qui sont venus. Merci aux organisateurs et voilà, m'avoir invité. Je peux moduler la voix aussi en fonction. Alors, je vais même, cher Sylvain Allemand, ouvrir l'angle même un peu plus grand, et puis on le refermera ensemble. Alors, je voudrais ouvrir l'angle un peu plus grand en disant que, en posant cette idée que, au fond, on peut analyser la crise globale que nous traversons sous ses différents aspects d'ailleurs, culturels, économiques, sociaux et évidemment politiques, comme étant notre difficulté, notre incapacité à donner les institutions et le tissu institutionnel qui permettrait le développement et l'épanouissement d'une société de la connaissance qui est déjà là et qui n'arrive pas, en réalité, à véritablement prendre ses marques et à se développer. Et donc, loin d'être dans une situation de progrès, je pense que, faute d'une analyse de cette transformation globale, culturelle, puisque quand on touche la connaissance, on touche quand même à ce qu'il y a de sacré dans une société. En aparté, puisqu'on le disait tout à l'heure, on faisait référence aux grandes périodes historiques, et ça permet de situer comme ça les choses. Au fond, avec l'histoire du livre, il y a eu trois grands livres. Il y a eu la Bible, qui marque effectivement un régime de connaissances, le régime de la scolastique, le régime du Moyen-Âge, le régime de la foi, croit pour savoir, disait saint Thomas. Il y a eu évidemment cette formidable révolution des Lumières et cette substitution de ce grand livre qu'est la Bible par l'encyclopédie Diderot, d'Alembert, Helvétius, Holbach. Et puis aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que le grand livre d'aujourd'hui, c'est Wikipédia. Et ça, c'est des mutations symboliques, bien entendu, je ne vais pas en tirer immédiatement des... Mais enfin, ce n'est pas du tout le même régime de connaissance, ça n'est pas du tout le même statut de la connaissance, ça n'est pas du tout la même reconnaissance de ce qu'est la connaissance. Et au fond, il faut s'interroger sur les raisons qui font que ce régime, ce nouveau régime de connaissance ne permet pas mieux de s'intégrer dans la société dans laquelle nous sommes, ou plus exactement, comment notre société ne lui ouvre pas plus ses institutions. Alors, on peut partir de choses très simples. Quand on analyse les dérives des dépenses, d'abord des dépenses publiques de manière générale, la crise globalement commence à la fin des Trente Glorieuses, et au fond, la crise financière n'est que la cerise sur le gâteau d'une crise de long terme qui correspond à cette transformation du mode de production, je dirais, d'une société qui fonctionnait sur un travail industriel vers un autre mode de production qui fonctionne plus à l'immatériel et à l'intelligence. Voilà. Mais ça, c'est facile de le dire de manière abstraite et générale, mais c'est très concret en même temps quand on voit et quand on l'analyse au regard du dérapage de la dépense publique. Quand je dis dérapage, d'ailleurs, voyez comme les mots sont piégés, parce que on peut considérer au contraire que c'est peut-être pas un dérapage, mais que c'est une nécessité, et ça a été une nécessité, puisque il y a eu une augmentation régulière de la dépense publique qui représentait 35% du PIB en 70, 53% en 2008 qui se poursuit. Quand l'augmentation des dépenses publiques n'a plus été suffisante, la dette publique s'y est ajoutée. Et la dette n'a fait que croître pour arriver, comme vous savez, aujourd'hui à des sommets. Qu'est-ce que ça traduit, ça ? Ça a traduit, en réalité, une orientation irrépressible de la production vers un secteur qui était plutôt un secteur tertiaire, avec le fait que le travail, disons, le travail qui se faisait autour de la matière, autour des entreprises, est devenu de plus en plus un travail sur la personne. Donc on est arrivé aujourd'hui en France avec 85-86% de la population qui est dans le secteur tertiaire. Et dans ce secteur tertiaire, tout au long de ces années, 30, maintenant on dit les 30 odieuses ou les 30 malheureuses, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas à la suite des 30 glorieuses, ce qui frappe, c'est que ce tertiaire, le tertiaire non marchand, a progressé beaucoup, beaucoup plus vite que le tertiaire marchand. Donc, la dépense publique et les différentes formes, d'ailleurs, de philanthropie ou de redistribution. Alors, disant cela, en même temps, je ne vous apprends rien. Mais, petite réflexion. Tout le monde a essayé de lutter contre cette augmentation, la dépense publique. toutes les professions de foi, et je ne parle pas simplement en France, les années Reagan ont prétendu s'opposer aux dépenses, à l'augmentation des dépenses publiques et à la dette. Les années Thatcher aussi. Et en fait, les États-Unis d'ailleurs sont à des niveaux bien supérieurs en termes d'endettement, en fait, pas une politique de ce type n'a réussi. Toutes les politiques qui ont prétendu réduire les dépenses publiques, voire même les freiner, n'y sont pas parvenues. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irrépressible, c'est-à-dire de l'ordre de la nature même de l'évolution de l'économie en tant que telle. Alors, elle est poussée par quoi ? Ben, elle est poussée par le fait, d'abord, que dans les modes de consommation, les gens veulent plus de santé, plus d'éducation, plus de connaissances, etc. Donc, c'est un élément assez évident. Mais elle est poussée aussi par une autre raison, qui est que ce travail sur la connaissance, ce travail plus exactement sur le capital humain, est un travail qui est devenu totalement indispensable aux entreprises. Les entreprises aujourd'hui vivent pour leur productivité, pour leur performance, essentiellement d'un travail qui se fait sur le capital humain. Alors, je préfère d'ailleurs cette idée de capital humain à celle de connaissance, car précisément la question de la connaissance, qui était le grand chantier du sommet de Lisbonne et qui était la grande direction de l'Europe, en réalité, a réduit cette question de la connaissance à la connaissance universitaire, académique ou à la recherche. Or, précisément, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est beaucoup plus la question du capital humain. C'est-à-dire la question, au fond, de tout ce qui est un travail sur l'individu. Et précisément, c'est pour ça qu'il y a cette dérive, au fond, du travail sur l'humain dans la santé, dans l'environnement, dans le lien social, et pourquoi toutes ces activités. Par exemple, là aussi on en parlait tout à l'heure, quand on prend l'emploi sur les 10 dernières années, ce qui a progressé le plus rapidement, c'est l'emploi non marchand associatif. C'est ce qui a progressé le plus vite en France. Voilà, je ne dis pas ça pour m'en réjouir ou pour dire que c'est mieux, que c'est moins bien, qu'il aurait fallu faire plus d'emplois dans les entreprises. Je ne sais pas, je n'ai pas de point de vue normatif par rapport à ça. Je dresse simplement ce constat. Voilà. Et au fond, quand on vient un peu sur le fond du mode de production de nos sociétés, il y a quand même quelque chose qui est assez clair dans le travail aujourd'hui de l'entreprise, c'est une transformation quand même de la nature du travail qui s'éclaire justement par cette question du capital humain, de l'utilisation du capital humain et par cette question de cette nouvelle économie. Pourquoi ? Bah, parce que d'un côté, le travail, je dirais le travail industriel traditionnel, et là je vais être un peu provocant, disons ce travail-là, c'est terminé, c'est fini. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, il représente quand même une bonne moitié de la population. Mais ce travail-là est condamné. C'est-à-dire le travail au sens traditionnel, industriel, qu'on appelait le travail prescrit. Ce travail prescrit, au fond, il s'exprimait de la manière suivante. On disait à un salarié, tu fais A, et après tu fais B, et après tu fais C, et après tu fais D. Donc, travail séquentiel, d'application, travail d'exécution. Ce travail-là, aujourd'hui, même si ça n'est pas fait dans les entreprises, qui, d'ailleurs, dans une large partie, pourraient être beaucoup plus performantes qu'elles ne le sont, Si elle pouvait d'ailleurs accéder plus facilement à l'automatisation, ce travail-là, prenez le travail dans les supermarchés, la fin des caissières, prenez les guichets, travail de guichet, besoin de guichet, etc. Donc il faut bien voir quand même que structurellement, la grande partie de ce qui avait constitué le cœur du travail aujourd'hui est au fond, d'une manière ou d'une autre, menacée et, à mon avis, condamnée. De l'autre côté, le travail qui est demandé est un travail qui se situe beaucoup moins, effectivement, dans l'exécution et beaucoup plus dans le travail de ce qu'on pourrait appeler le travail de la compétence, dans lequel, justement, le capital humain est devenu la ressource fondamentale. Et ce travail sur la compétence, qui n'est pas réductible d'ailleurs au niveau de diplôme, travail de la compétence, la plupart des diplômes, la plupart des compétences qui sont mises en œuvre par les salariés, pour l'essentiel, à 80%, ce sont des compétences implicites, qui ne sont même pas formalisées, donc qui ne sont même pas verbalisées. Donc l'essentiel du travail, d'une certaine manière, est un travail qui relève d'un certain nombre de compétences qui sont acquises, soit dans le travail lui-même, soit à l'extérieur, dans la vie sociale, etc. Ce travail sur les compétences, on voit bien que ce qui est demandé, c'est un investissement de la personne. Mais quand on dit un investissement de la personne, qu'est-ce qui est recherché ? On recherche la capacité d'innovation, la capacité de créativité, la capacité de, comme me le disait un chef d'entreprise, moi, si c'est quelqu'un, si je recrute quelqu'un sur un emploi, bah, je veux que cette personne, qu'est-ce qu'il me disait ? Il me disait, je veux que cette personne me surprenne, qu'elle m'apprenne quelque chose, c'est-à-dire je ne veux pas qu'elle remplisse un emploi, je veux qu'elle crée l'emploi, qu'elle crée quelque chose de nouveau. Donc c'est un travail qui est fondamentalement différent, qui ne peut plus être cadré du tout de la même manière, qui fait appel à des compétences qui sont souvent des compétences d'ailleurs individuelles, personnelles ou relationnelles, qui mettent en jeu des qualités personnelles, et cela dans le but d'une innovation. Au fond, d'ailleurs, la question de la durée du travail, de ce point de vue, d'ailleurs, se pose, parce que la durée du travail n'est pas nécessairement l'étalon de la performance, et aujourd'hui, de moins en moins, la question de la durée du travail. Beaucoup d'entreprises dans lesquelles, d'ailleurs, les salariés ne sont pas requis d'être dans l'entreprise. Ce qui importe, c'est le résultat, c'est la performance. Peu importe comment cette performance est obtenue, si elle est obtenue dans un temps plus ou moins court, ce qui importe, c'est la performance elle-même. Donc je trouve que, d'une certaine manière, les débats sur le temps de travail sont des débats qui, à mon avis, appartiennent à l'ère industrielle, d'une certaine façon, et qui ne sont plus du tout dans le travail aujourd'hui demandé. Il y avait, pour illustrer ce que je suis en train de dire, il y avait une publicité qui a été faite par une agence intérimaire que j'ai trouvée très bien faite. Les publicitaires ont parfois comme ça un sens assez magique, où l'affiche c'était « Vous cherchez une secrétaire ». Donc « Vous cherchez une secrétaire » et on voyait une voiture américaine avec un capot ouvert, et on voyait la soi-disant secrétaire en question, plus ou moins en jupe longue, et en train d'essayer de réparer le moteur. L'image était subliminale et en même temps elle était intéressante. Elle voulait dire quoi ? Elle voulait dire, c'est pas une secrétaire que vous allez avoir, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose de plus dans votre entreprise, qui va vous apporter quelque chose. Et au bout du compte, ce qui se passe, c'est que dans cette nouvelle économie de la connaissance, qui est une économie donc des compétences, eh bien, le travail sur les compétences devient de plus en plus extérieur au travail lui-même. Autrement dit, le travail, ou ce qui est considéré comme le travail, est un résultat, moins qu'un processus. Le processus, il est de plus en plus, se fait de plus en plus en amont. Il se fait de plus en plus, ce que les économistes appellent dans les externalités à l'entreprise. L'entreprise récupère. Mais elle récupère quoi ? Elle récupère précisément une somme de compétences qu'elle articule et qu'elle met en phase pour une production. Mais l'essentiel du travail, et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qui explique en grande partie à la fois le chômage pour des raisons d'automatisation et en même temps la dérégulation du temps de travail parce qu'on n'a plus besoin de gens à plein temps dans une entreprise. Alors, ceux qui ont des hauts diplômes peuvent négocier leurs diplômes avec des salaires assez hauts. Ceux qui ont les compétences mais pas les diplômes correspondants ne peuvent pas le faire. Et eux sont payés toujours au salaire horaire, y compris s'ils ne font pas un plein temps. Et vous avez là, évidemment, un processus de précarisation du salariat et un processus qui préserve encore ceux qui sont diplômés. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que ce sont nécessairement les plus compétents. Parce que, et c'est un des problèmes, c'est que, justement, dans cette économie de la connaissance, les compétences, en tant que telles, ont du mal à être reconnues dans leur effectivité lorsqu'elles ne sont pas associées à un diplôme correspondant. Et là, il faut voir que ça pose un problème d'investissement, d'engagement d'un certain nombre de salariés. Il y a un très bon livre de mon ami Norbert Alter qui montre que, d'une certaine façon, les entreprises ne savent pas accepter le don de compétences que bien des salariés seraient prêts à faire si, toutefois, on leur proposait une reconnaissance correspondante. Au fond, j'ai envie, pour synthétiser, puis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai envie de reprendre cette phrase formidable de Gabriel Tarde de la fin du 19e siècle qui voyait bien les choses. Et au fond, il disait « L'ouvrier sera absorbé soit par la machine, soit par l'artiste. » Soit par la machine, soit par l'artiste. Or l'artiste, plus de travail. D'ailleurs, il y a un très bon livre aussi, je me permets de le citer, « Portrait d'artiste en travailleur », qui montre que, précisément, le travail évolue vers... Alors, pour l'instant, on dira, mais attendez, vous parlez de qui ? Vous parlez de cette créative classe de Florida ? Vous parlez de cette petite minorité d'individus qui sont capables d'être, comme disait Reich, des manipulateurs de symboles ? Non, je ne parle pas de cela. Pas seulement. D'abord parce qu'on demande à tout le monde des compétences, y compris maintenant aux caissières qui ne font plus être des caissières, mais qui deviennent des conseillères, etc., etc., qui doivent faire de la fidélisation de la clientèle, qui doivent faire des tas d'autres choses, etc. Mais surtout, je dis que cette dynamique de la compétence est en marche et c'est celle-là qu'il faut prendre en compte et comprendre pour arriver effectivement à sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Si vous réfléchissez à l'image de l'artiste, elle est assez juste. Elle est assez juste parce que, au fond, l'entreprise récupère la performance, mais pas le travail sur la performance. Et qu'est-ce qui compte chez l'artiste ? C'est la prestation ou c'est la répétition ? Où se fait le travail de l'artiste ? Où se fait le travail du salarié aujourd'hui ? Où se fait son vrai travail ? Quand on lui demande des compétences de ci, de ça, où est-ce qu'ils les produisent ? Les entreprises produisent des compétences ? Les entreprises n'ont pas le temps de produire les compétences. Et notre formation professionnelle est dans un état relativement désastreux. Donc où se produisent les compétences ? Où se produit cette plus-value qui permet justement à cette économie de la compétence d'être, elle pourrait être une des plus performantes, y compris d'ailleurs dans l'industrie, parce que le débat sur l'industrialisation est un débat assez curieux dans la mesure où on peut effectivement rapatrier des industries, mais c'est des industries avec une large part d'automatisation qui permettront d'être compétitives. Alors, qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui fait qu'il y a une sorte de contradiction, au fond, entre cette nouvelle société de la connaissance dans laquelle tous les individus, au fond, devraient pouvoir participer d'une manière ou d'une autre, et puis la réalité institutionnelle. Ce qui bloque, c'est que, au fond, le travail, le véritable travail qui devient un travail en amont sur les compétences, eh bien, ce travail-là, il est peu effectué. On le renvoie, en général, au système de formation initiale. Et précisément, le programme européen met essentiellement l'accent sur l'université, sur la recherche, sur la recherche et développement, un peu sur les technologies de la communication aussi. Mais bon, la question, elle est bien quand même de se poser, de savoir quelles sont les compétences que délivre le système académique, scolaire et universitaire. Il délivre quelques compétences. Il délivre, moi je le dis un peu de manière un peu critique, par rapport, parce que bon, on n'est jamais aussi bien critiqué que par soi-même comme universitaire. Moi je dis volontiers à mes étudiants que je leur délivre une compétence qui est de passer un examen. C'est une compétence qui en vaut d'autres, mais ce n'est pas une compétence qui assure absolument de toutes les capacités nécessaires pour diriger une entreprise, pour s'investir, pour avoir une capacité d'initiative. Je ne voudrais pas être méchant d'ailleurs, mais on pourrait reprendre les valeurs du système éducatif et considérer qu'elles sont radicalement et diamétralement opposées à ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui. Quand on demande à quelqu'un d'être plutôt créatif, d'être donné dans l'individualité, je ne suis pas sûr que le système éducatif adore que l'on donne dans l'individualité ou dans la créativité. Donc, ce décalage qu'il y a entre, d'un côté, cette idée que, au fond, la société de la connaissance passerait essentiellement par un système académique me paraît précisément passer à côté de ce qu'est cette société de la connaissance. Alors, comment, au fond, produire ce capital humain ? Alors, cette production du capital humain, pour l'instant, on considère qu'elle se fait essentiellement par la dépense publique. Et on retrouve ce que je vous avais dit en introduction. Or, la dépense publique, c'est vrai, et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle atteint ses limites. Elle atteint ses limites. Et donc, bloquer la dépense publique, ce qu'on n'arrivera pas véritablement à faire, ben c'est tout simplement, aujourd'hui, bloquer le cœur de ce qui fait la croissance. Tout simplement. Alors, je ne dis pas, je ne nie pas d'une certaine manière que les entreprises aient tout leur rôle à jouer dans cette croissance, mais je dis que le cœur même de ce qui fait la productivité de l'entreprise, c'est ce capital humain. Si on bloque aujourd'hui ce développement, on bloque l'ensemble. C'est clair. Quand j'entends capital humain, encore une fois, j'ai du mal à me dessaisir du mot connaissance, vous voyez, parce que c'est le thème privilégié en même temps qui est celui de ce cycle. Mais pensons de la même manière aux dépenses de santé.
La question de la santé est évidemment, pour n'importe quel chef d'entreprise vous dirait, est une question essentielle dans la performance. La question du lien social ou la question d'un certain nombre de compétences est tout à fait essentielle à la performance. Vouloir réduire la performance du salarié à un niveau de diplôme est une stupidité. Donc elle correspond à un ensemble de qualités. Le problème, c'est qu'elles sont plus ou moins reconnues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on reconnaît véritablement? Donc on voit bien que là, il y a un blocage. Et que ce blocage, et au fond, cette croissance à crédit depuis 30-40 ans, c'est simplement une croissance qui a été une croissance sur le travail, sur la personne, une croissance sur le capital humain, qui s'est faite là-dessus. Et dont les externalités ont été positives pour les entreprises qui ont profité de ça. Aujourd'hui, comment on fait? Est-ce qu'on transfère au privé? Mais transférer l'éducation au privé ou transférer la santé au privé, ce qu'on essaye vainement de faire, je dis vainement, mais parce que ça n'intéresse pas le privé. Le privé n'a pas du tout envie de se charger du service public de l'éducation ou de la compétence des individus. Vous prenez les hôpitaux, le privé veut bien faire quelques prothèses de hanche parce que ça l'intéresse, il n'a pas du tout l'intention de se charger de l'ensemble de la santé publique. Ou alors s'il s'en charge, ce sera pour ceux qui pourront payer au prix fort. Et tout le monde y perdra. Il faut donc bien voir que le cœur de la croissance aujourd'hui est constitué. Je ne le dis pas parce que je serais de gauche, de droite ou n'importe, est constitué par le bien public. C'est ça le problème. Je le résume dans un sous-titre en disant « Aujourd'hui, le social est le cœur de l'économique ». Et c'est ça notre grande contradiction. C'est qu'aujourd'hui, ce qui fait véritablement le cœur de l'économie, c'est ce capital social, c'est ce capital humain. Donc comment on fait? Et c'est cette contradiction dans laquelle nous sommes. Si je voulais en rajouter, je vous dirais on est dans une contradiction de type totalement marxiste. On peut parler de Marx, d'ailleurs, sans être marxiste. Et en tout cas, Marx avait, de ce point de vue, une très belle analyse. Lorsque Marx pointait les grandes révolutions et les grandes transformations en disant qu'elles résultaient d'une forme de contradiction entre de nouvelles forces productives et d'anciens rapports de production, ça décrit mieux que je ne saurais le faire l'introduction de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire comment un nouveau régime de croissance ne trouve pas les institutions qui lui correspondent. Comment un nouveau régime de croissance ne peut pas se développer, est entravé dans son développement au détriment de tous, y compris des entreprises elles-mêmes. Donc comment on fait par rapport à ça? Je n'ai pas de potion magique. Un petit rappel sur le fait qu'en 2009, il y a eu pour la première fois un prix Nobel d'économie qui a été attribué à une femme. Et ce prix Nobel d'économie s'appelle Elinor Ostrom, et elle a fait tout son travail sur la production des biens communs, en montrant que, précisément, les grandes ressources qui pouvait faire la croissance aujourd'hui, elle en prend deux essentiellement, l'environnement, je crois qu'à Poitiers vous y êtes sensible, et je pourrais vous dire qu'à Paris on l'est encore plus d'ailleurs, l'environnement, et elle prend la connaissance. Et elle dit voilà, c'est les grands cœurs véritablement aujourd'hui de ce qui fait faire la croissance, et ce sont des biens communs. Ce sont des biens communs. Donc comment on fait? Comment on fait? Si on n'assure pas par le service public, et si on considère que ces biens communs ne peuvent pas être privatisés, c'est tout l'enjeu, d'une certaine manière, de cette économie de la connaissance. C'est un des enjeux. D'ailleurs, vous avez eu une petite démonstration avec l'exemple d'Adopi. Fallait-il empêcher les gens de télécharger ou laissons la libre circulation? Mais c'est un tout petit exemple qui renvoie à un exemple beaucoup plus important d'un régime entier de transformation sociale. Je pense que il y a plusieurs voies, mais en tout cas, il y en a une qui est certaine, c'est qu'il faut bien, il faudra bien consacrer institutionnellement un secteur qui puisse être un secteur de valorisation et de production de ses compétences. Et ça, alors vous allez me dire, mais ça c'est la formation professionnelle. Non, je ne crois pas que ce soit la formation professionnelle stricto sensu. Encore que la réflexion aujourd'hui des gens, par exemple, à l'AFPA, enfin l'Association pour la formation professionnelle, aille dans le sens d'un travail sur les compétences sociales. Vous comprenez que le problème n'est pas la compétence technique. Ça, les entreprises peuvent apporter la compétence technique. Ça, la formation peut apporter la compétence technique. Le problème n'est pas là. Et tout le drame de la formation aujourd'hui, c'est qu'on est sur un problème de capital humain. On n'est pas sur un problème de former et d'apporter quelques notions d'informatique ou un peu d'anglais. On est sur un travail de valorisation. Là aussi, on le disait tout à l'heure, la première des valorisations, c'est donner confiance aux individus. Donner confiance en soi. Alors, on dit souvent, dans les compétences matricielles, la capacité d'ouverture, la capacité relationnelle, la capacité d'initiative, la capacité d'apprentissage. J'ai un de mes collègues qui a forgé le terme d'apprenant, ce qui, je crois, est intéressant pour votre cycle, parce qu'il dit ce qui est important, c'est l'apprenant, c'est pas apprendre quelque chose, c'est peut-être le apprendre à apprendre, mais c'est cette ouverture, n'est-ce pas, cette ouverture permanente, là on va toucher les territoires, c'est-à-dire cette manière d'universaliser, au fond, cette question de la compétence. La compétence, elle se produit à partir de l'individu, à partir de son engagement, et pas de 5 à 7. Je me réfère à mes étudiants, je leur dis, si vous pensez que vous allez faire une thèse ou un travail en vous disant, allez, je m'y mets de 5 à 7, non. Si tu n'en fais pas un truc obsessionnel qui te travaille la nuit, ce n'est pas la peine, ça ne travaille pas. Si ce n'est pas un truc dans lequel l'individu s'engage, se donne et veut expérimenter par lui-même, bon, ce sera de la connaissance, aussi vite engrangée, aussi vite oubliée. Ce n'est pas de ça dont je parle. C'est quelque chose de plus fort, c'est quelque chose qui engage la personne. Et d'ailleurs, je constate que c'est ce que demandent les entreprises. Elles demandent que les gens se donnent, et quand elles disent « je veux quelqu'un qui s'engage », il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, je ne parle pas du patron rétro qui veut A plus B plus C, tu fais ce que je te dis et pas autre chose. Mais celui qui, au contraire, veut que quelqu'un s'engage totalement. Bon, ça, c'est un vrai travail. Alors moi, c'est vrai que je pense que je trouve bien des vertus aux associations et au tissu associatif dans le développement des compétences. C'est vrai, je lui trouve beaucoup de vertus. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à trouver des vertus. Les entreprises... D'accord, je vais faire plus court. Les entreprises, d'ailleurs, sont les premières à leur trouver des vertus. Puisque s'il y a quelque chose qui marche très bien aujourd'hui, c'est le bénévolat et le mécénat de compétences. Et de plus en plus d'entreprises font, au fond, leur RH, comme on dit, leurs relations humaines et leur formation en lien avec les associations. Au début, on pensait que c'était un peu de RSE, un peu d'image de marque pour l'entreprise. On aidait l'association, bon, c'était bien. Puis on s'est aperçu que les gens, quand ils revenaient de l'association, c'était plus les mêmes. Ils ne s'engageaient plus de la même manière dans le travail. Ils apportaient plus la même chose. Qu'ils n'avaient plus les mêmes relations avec les autres, avec la hiérarchie, que ça fonctionnait autrement. Et au fond, ils ne faisaient que conforter ce que écrivait Peter Drucker, le fameux gourou du management américain dans les années 70. Il disait, sous forme de boutade, il faut prendre au sérieux, souvent les boutades, il disait, vous voulez que votre entreprise réussisse ? Traitez-la comme une association. Bien sûr. Ne pas croire que dans un travail sur la personne, on pourra faire un travail comme dans les temps modernes de Charlot. Si vous ne faites pas de la reconnaissance et de l'association avec la personne, pourquoi voulez-vous qu'elle s'engage ? Elle donnera à proportion, elle donnera le minimum. Donc ce travail, à mon avis, ces compétences qui ne s'enseignent pas, mais sûrement pas à l'université en tout cas, ces compétences qui ne s'enseignent pas, et à l'université, on ne cesse de pousser d'ailleurs les étudiants à aller dans les associations, c'est peut-être pas un hasard non plus. Les grandes entreprises avaient compris ça d'ailleurs il y a une vingtaine d'années. Il n'y a pas une grande entreprise dans laquelle les stages dans les associations ne soient pas valorisés, en particulier les entreprises de commerce, comme par hasard. Donc il y a quelque chose, il y a une relation gagnant-gagnant, que je trouve extrêmement intéressante, qui prouve, moi je le dis par effet démonstratif, c'est parce que les entreprises ne sont quand même pas des philanthropes. Donc si elles sont dans ce mouvement-là, là je n'ai pas les chiffres, mais alors ça touche pour l'instant plutôt les grandes entreprises et un peu moins les PMI, mais c'est un mouvement qui est lancé. Je pense qu'il faut le généraliser, aller bien au-delà. Et puisqu'il ne me reste que 2 minutes ou 3 minutes, je les consacrerai simplement à 2 points que je crois très, très importants. Le premier, c'est que cette question du travail et de l'investissement dans le capital humain et dans la compétence, il faut le commencer à l'école. Il faut le commencer à l'école. Et on est dans une école qui aujourd'hui ne reconnaît que ce que reconnaissent les écoles, c'est-à-dire le savoir scolaire. Le savoir scolaire, dans une économie, dans une société de la connaissance, c'est important. C'est important, mais c'est une petite partie, je le dis, c'est une petite partie de ce que les enfants doivent savoir. Les enfants, pourquoi est-ce que les scolaires n'iraient pas et n'auraient pas un contact avec l'entreprise ? Pourquoi est-ce que les scolaires ne produiraient pas leurs propres associations ? D'ailleurs, les juniors associations permettent maintenant à des mineurs de créer leur propre association. Mais au fond, d'une certaine manière, tout ça se fait. Et de plus en plus, les programmes d'éducation locale, je terminerai sur les territoires, bien entendu, font que la plupart des écoles essayent de s'ouvrir sur les territoires, essayent de montrer toute la richesse qu'il peut y avoir avec les institutions, en particulier sur la thématique du développement durable. Mais au bout du compte, on reconnaît quoi après ? On évalue quoi ? Et qui évalue quoi ? Et est-ce que ça rentre dans le cursus ? Alors, ça rentre dans un cursus culturel, mais au fond, qu'est-ce qui va continuer à valider et à faire qu'on sélectionne et qu'on va reconnaître le cursus d'un enfant ? C'est quoi ? Ça va être sur ses compétences ou ça va être sur un livret strictement scolaire ? Et plus ça ira, et plus ça sera uniquement un travail purement scolaire, comme les Lumières le pensaient d'ailleurs quand ils avaient bâti leur système sélectif autour des grandes écoles. Ça se faisait autour des mathématiques, c'était parce que les mathématiques c'était la science même de l'abstraction la plus indiscutable, quelque chose qui ne pouvait pas être contesté, mais qui a malgré tout ses limites. Mon dernier mot, évidemment, il est pour les territoires. Alors, je pense que effectivement, le travail sur le capital humain exige 3 choses. Il exige une forme d'identification, d'individualisation d'un territoire. Ça, c'est vrai. Je veux dire, l'ancrage, c'est comme la créativité. La créativité, elle se fait à partir de quelque chose d'identitaire. Après, on le dépasse. Mais l'identitaire permet quand même quelque chose. Voilà. Vous savez, c'est le fameux penser globalement, agir localement. Hein. C'est donc l'ancrage, l'identitaire. Et puis après vient le mixage. Alors, le mixage, c'est la possibilité, justement, des rencontres. C'est la possibilité des métissages. Et je crois, d'ailleurs, que, pour vous donner une illustration, je crois que, par exemple, la technologie Internet et le croisement du lien social est un révélateur, justement, de ce rapport d'association que les gens veulent entretenir. La technologie Internet n'est pas née par hasard. Elle est née sur une nouvelle exigence de lien social, de nouveaux rapports sociaux. Donc, le deuxième élément, pour moi, c'est sûrement le mixage des compétences. Et puis, le troisième élément, c'est les passeurs. Il faut des passeurs. Il faut des gens qui soient capables de faire le lien entre ce que les Américains appellent l'underground et le upper ground. Donc, il y a besoin d'un middle ground. Et ça, c'est quoi le middle ground ? Des passeurs, c'est les gens qui sont capables de faire le lien entre les individus et les institutions. Et ça, ces passeurs-là, à mon avis, eh ben, ils se trouvent pour beaucoup dans le tissu associatif. Et mon dernier mot sera pour dire que, malheureusement, les institutions associatives, aujourd'hui, n'ont pas, souvent aussi, pour une part, pour leur responsabilité, n'ont pas sans doute la place qu'elle mériterait d'avoir, y compris dans les institutions politiques, puisque nous avons par exemple un Conseil économique, social et environnemental, qui est quand même la troisième chambre parlementaire et qui ne joue pas du tout ce rôle-là dans les institutions de la République. Je vous remercie de votre attention.
Merci Roger Su. Alors les associations, je ne sais pas si elles occupent une place digne de leur importance dans la société, mais en tout cas elles en occupent une importante dans cet ouvrage qui montre leur contribution à cette économie et société de la connaissance et qui du coup donne un côté plus humain à cette économie et à cette société. Alors on va en venir à vos questions, interrogations. Moi, je garde à l'esprit cette notion, comment avez-vous dit, d'apprenance, voilà, et qui fait écho aussi à cette notion dont vous m'aviez parlé en aparté, de territoire apprenant. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir, parce que, bien évidemment, dans le cadre de ce cycle, la question, là, je parle sous le contrôle de Jam Renaud, c'est de savoir comment des territoires, des agglomérations peuvent se saisir de catégories générales, d'enjeux de société pour les faire vivre à l'échelle de leur territoire. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Auparavant, peut-être des questions de la salle, des demandes d'éclaircissement. Voilà, monsieur.
Oui, bonjour. J'avais deux questions. La première question, vous avez dit on va de plus en plus vers une société qui fait appel à des compétences, je dirais, intellectuelles, sociales, humaine, mais en même temps, dans des activités comme les services à la personne, dans des activités intellectuelles, on voit de plus en plus apparaître des normes, des processus, des normes ISO, qui de plus en plus dictent les comportements des personnes, minutent en quelque sorte les comportements des personnes. Et donc la première question, c'est comment vous interprétez ça ? Est-ce qu'à votre avis, vous le voyez de manière positive, c'est une forme de reconnaissance de compétences qui jusqu'à présent était cachée ? Ou est-ce que, de manière négative, c'est au contraire quelque chose qui bloque encore plus le passage vers une nouvelle société ? Et puis la deuxième question, c'est sur le vocabulaire que vous employez, capital humain, compétences. Est-ce que ce vocabulaire, enfin je pense que vous l'employez à dessein, c'est un vocabulaire d'entreprise, c'est un vocabulaire du discours dominant actuel ? Vous avez également parlé d'économie de la connaissance, du processus de Lisbonne. Donc vous êtes dans le vocabulaire dominant. Et pour traiter de choses qui ont été traitées auparavant dans le monde associatif, en termes plutôt d'éducation populaire, d'émancipation, d'épanouissement, etc. Donc je voudrais aussi vos remarques par rapport à ce type de vocabulaire, à ce glissement volontaire de vocabulaire vers un vocabulaire plus habituel. Merci.
Ben écoutez, sur la première question, c'est vrai que je pense que le processus de rationalisation dont vous parlez, il est parti de quelque chose qui est très simple, qui est précisément le processus de révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire de ce fantasme de rationalisation là où précisément il n'en faudrait pas. Donc pour le dire clairement, Je crois qu'on a essayé de se rendre... Enfin, on s'est dit que, précisément, il y avait nécessité de mettre ce domaine de la connaissance à travers un cadre, je dirais même un cadre industriel, et qu'il fallait traiter sur le même mode entrepreneurial et le même mode rationalisant la question de la connaissance. Je pense que on peut très bien, lorsqu'il s'agit d'un professionnel comme moi, professeur d'université, reconnaître qu'il faut une part de cela, parce que dans toute profession, il y a bien des exigences d'évaluation. Je pense qu'aller à l'excès, comme la situation tend à le faire, c'est une erreur. Mais surtout, je pense qu'il ne faut pas le généraliser. Et je pense qu'il faut qu'il y ait précisément des espaces dans lesquels la liberté et la liberté individuelle, la liberté de créativité soit totale. Je vais prendre un exemple. On pourrait penser que les entreprises peuvent instrumentaliser les associations et leur dire, après tout, vous allez faire ci, vous allez faire ça, comme ça je vous subventionnerai, mais si vous rentrez bien dans le cadre de l'acquisition de la compétence X ou de la compétence Y. Ce serait une erreur, parce que précisément, c'est à partir de la créativité individuelle que le processus managérial de l'entreprise peut se renouveler. Ce n'est pas le patron dans sa grande sagacité qui va trouver tout d'un coup même ce qu'il lui faudrait pour son entreprise. Non, c'est la pensée et l'intelligence collective qui le peut. Donc je pense que moi je trouve mes vraies ressources intellectuelles au moins autant dans les associations qui est mon temps de respiration et de capital humain que dans mon travail professionnel qui lui est un peu plus soumis aux normes que vous dites, en particulier, je pense que vous faites référence aux normes évaluatives à l'université. Donc, sûrement, n'élargissons pas ou faisons attention, mais comprenons en même temps d'où vient ce processus. Ce processus vient d'une double exigence, une exigence que j'ai indiquée sur la dépense publique. La dépense publique, on va essayer de trouver toutes les manières possibles de la rationaliser. Et puis la deuxième chose, c'est comment revenir, y compris sur le plan intellectuel, sur un modèle que l'on croit encore valable dans notre économie, qui est le modèle industriel. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir industrialiser la pensée des universitaires et des autres ? Je pense que c'est une erreur assez fatale, même si j'y reconnais. Voilà. Alors voilà, pour la première question, oui, faire des réponses peut-être un peu plus courtes, mais la question était importante et
réalisation trop importante, est-ce qu'elle est au cœur des activités de la Fonda, cette structure très intéressante qui valorise, promeut l'engagement associatif, etc. Est-ce que ce sont ce type de questions qui sont au cœur de vos travaux ?
Oui, la Fonda est un organisme de réflexion sur, disons, un intellectuel organique pour les associations. Donc, réfléchit sur tout ce qui peut être les apports des associations. D'ailleurs, juste une incidente par rapport aux compétences, dans la dernière enquête qu'on a faite sur pourquoi, c'est particulièrement vrai pour les jeunes, pourquoi les jeunes s'engagent dans les associations, ils s'engagent dans les associations aujourd'hui pour avoir des compétences. C'est le premier motif, c'est quand même hallucinant, on ne leur demande pas ça. On leur dit vous engagez pour vous faire plaisir, vous engagez parce que vous croyez à une cause. Non, alors il y a un aspect aussi instrumental, c'est parce qu'ils savent que par rapport aux entreprises, justement, dans leur CV, ce sera très bien. Et ça me permet de rebondir sur votre deuxième question, qui est le lien entre, précisément, éducation populaire et le langage que j'utilise. Oui, monsieur, c'est à dessein que je retourne le langage du management, précisément, contre lui-même. C'est-à-dire, je pense que, précisément, il faut... reconnaître la question du capital humain. Il faut reconnaître la question de l'engagement. Il faut considérer que ce sont des éléments absolument déterminants dans la performance. Mais en même temps, il faut leur poser immédiatement la question suivante. Est-ce que c'est vous qui la produisez ? Parce que, voyez, l'erreur, c'est que bien des entreprises ont le sentiment que c'est elles qui produisent la réalité, alors qu'elles sont au bout de la chaîne, qu'elles récupèrent en réalité, ce qu'on a appelé des externalités, qu'elles récupèrent en réalité tout un monde social qui est aujourd'hui investi l'entreprise. C'est moins l'entreprise qui investit le monde social aujourd'hui que le monde social qui déborde et qui apporte toute sa richesse à l'entreprise. Et il faut, dans ce cas-là, reconnaître une attitude partenariale, même si les mots sont les mêmes.
Oui, je voudrais vous faire deux remarques qui sont aussi deux questions. Vous avez dit que les 80% des compétences ne sont ni écrites ni verbalisées. Ne pensez-vous pas que la normalisation ISO sur la qualité dans les entreprises va tendre justement à la reconnaissance des compétences, des savoir-faire de l'entreprise ? Parce que cette norme qualité se développe de plus en plus dans l'entreprise. Et puis, deuxième remarque...
Ça prolonge la réflexion de
absolument, M. Absolument, oui. C'était pas uniquement la reconnaissance des acquis universitaires. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai entendu. La deuxième question, je ne vous ai pas du tout, ou alors j'ai mal entendu, mal écouté plutôt, je vous ai pas du tout entendu parler d'expérience. Parce que les compétences, elles s'acquièrent aussi par l'expérience. Et je voulais avoir votre avis sur cette remarque.
Ben justement, je trouve précisément que la vertu, si on parle du tissu associatif, de ce point de vue, est forte parce que le travail sur la compétence se fait dans l'expérience, dans ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, bien sûr. C'est-à-dire que la vertu, elle est que de travailler sur l'autre, c'est en même temps travailler sur sa propre compétence, mais à travers des cas concrets. Et... encore une fois, d'ailleurs, j'aurais pu prendre le problème dans cette dimension-là. On ne peut pas répondre à la question sociale. On ne peut pas répondre à la question des compétences. On ne peut pas répondre à la question de la santé. On ne peut pas répondre à la question du vieillissement. On ne peut pas répondre aux questions centrales de notre société aujourd'hui sans un troisième secteur. C'est impossible. Donc il n'y a pas, je veux dire, c'est pas avoir, être pour l'association, être contre l'association, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution d'une certaine façon. Nous ne répondrons pas à la question du bien commun qu'en France on appelle, d'ailleurs, moi j'invite à une réflexion sur le glissement de la notion de service public vers la notion de bien commun, avec toutes les dérives, là, puisqu'on parlait de dérives, monsieur, tout à l'heure, avec toutes les dérives que ça peut avoir sur le caractère common good des anglo-saxons et la big society à la Cameron, et avec cette... Voilà, vous voyez ce que je désigne. Mais, bon, cette question du bien commun, eh bien, nous n'en tirerons pas et nous ne la produirons pas sans une mobilisation de la société civile. C'est-à-dire, il faut que la société civile se mobilise dans son ensemble pour arriver à répondre à ces questions fondamentales dont dépend la performance des entreprises. C'est pas quelque chose, c'est pas le social contre l'économique. C'est parce qu'on saura faire ça qu'on sera capable d'avoir des marchés compétitifs et qu'on ne sera pas à ramer avec une sidérurgie qui aura du mal à concurrencer la Chine, ça c'est sûr. Donc c'est avec ce travail, c'est ce travail-là, et donc moi c'est ce travail gagnant-gagnant en quelque sorte que j'essaye de dire et d'impulser, de montrer que c'est ça qu'il faut enclencher. Alors un exemple précis, je crois qu'il faut glisser de la notion du bénévolat vers la notion du volontariat. C'est ce qu'a commencé à faire d'ailleurs un peu... Hirsch avec son service civique, Je trouve que la question du service civique est une question tout à fait intéressante. Mais pourquoi les jeunes? Pourquoi seulement les jeunes? Pourquoi seulement 2 ans? Pourquoi ne pas instituer une possibilité pour les individus d'être dans ce travail social, au moins en alternance ou éventuellement cumulable avec un emploi qui sera de plus en plus un emploi intermittent? Quand il y avait eu ce travail sur l'intermittence, vous vous souvenez peut-être de ce slogan des intermittents du spectacle, qui avait dit d'ailleurs ce que je dis ou ce que Gabriel Tarde disait. Il disait, vous serez tous des intermittents du spectacle, arrêtez! Vous allez être des intermittents du spectacle. Donc comprenez que vous êtes des intermittents du spectacle, qu'on ne vous demandera pas d'être toujours dans le même emploi, de faire toujours la même chose et de faire toujours les mêmes trucs, que si vous n'êtes pas capable de travailler sur votre capital. Et si vous ne comprenez pas que le travail aujourd'hui, et c'est ça un peu le message, c'est que le travail aujourd'hui, c'est le travail sur soi, c'est-à-dire la production de soi. Au fond, on a produit de l'alimentation, on a produit des équipements, on a produit des services. On arrive à une sorte de but ultime aujourd'hui, c'est que, et il faut le prendre au pied de la lettre, y compris au plan génétique, la question d'aujourd'hui, la question de la production aujourd'hui, c'est la question de la production de l'individu. Et donc, ça devient le travail essentiel. Le travail sur soi, qui conduit au travail sur les autres, devient le véritable sens du travail. Et ça, évidemment, ça suppose des tuyaux, si je puis dire, puisque ça suppose des tuyaux et des formes de financement, je vous les ai épargnées parce que Sylvain ne m'aurait pas permis de le faire, mais ça suppose des circuits, des tuyaux et des formes de réorganisation institutionnelle très différentes. Encore une fois, la société de la connaissance qui ne demande, puisque les individus sont quand même, en règle générale, beaucoup plus cultivés, ils ont beaucoup plus d'informations, ils savent beaucoup plus de choses, il y a des trésors cachés partout. Bon, je veux dire, le capital social aujourd'hui, le capital humain de connaissances aujourd'hui, négligé, inutilisé par les entreprises comme par le tissu social, est hallucinant. Nous sommes dans une forme de sous-productivité hallucinante dans un pays comme la France. Je dis, alors maintenant je peux lâcher un peu les chevaux, j'ai fait ma conférence, donc là on discute entre nous, les élites jouent contre le progrès aujourd'hui. Les élites sont à l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour développer et permettre le progrès. Et donc on a un vrai problème de reconnaissance de cela.
Alors, moi, oui. On va prendre une question. Auparavant, je me tourne quand même vers Anthony Glazou, qui avait eu la gentillesse de nous rejoindre et qui anime. Pourquoi ? J'ai envie d'entendre s'il le souhaite, notamment sur la notion d'apprenance et de territoire apprenant, parce que je fais les présentations. Anthony Glazou est l'animateur du réseau des professionnels du numérique en Poitou-Charentes, mais c'est quelqu'un donc à qui l'économie de l'immatériel parle, mais qui a aussi les pieds bien ancrés dans le territoire et qui prend en compte justement l'importance des ancrages territoriaux, des acteurs. Peut-être que d'ores et déjà, voilà. Oui.
Et donc, merci Sylvain de me donner la parole de la sorte. Donc j'ai une remarque et ensuite une interrogation. D'abord de vous remercier chaleureusement parce que vous avez donné ce soir, je crois, alors de manière très provocante, un cadrage. Vous avez souligné le cadre dans lequel le Conseil de développement responsable de Grand Poitiers agit, à savoir réflexe identitaire, mixage des compétences.
C'était pas concerté, hein.
et le Conseil de développement en qualité de passeur. Donc merci pour ça. Donc ça, c'était ma remarque. Une question, donc en lien avec la compétitivité des territoires, donc là, économique, je suis par ailleurs dirigeant d'entreprise, donc forcément, chasser le naturel et je reviens au galop. Donc on est en compétitivité, les territoires entre eux. Alors prenez à l'échelle que vous voulez bien, la France, l'Europe ou le monde. Ma question, elle est de savoir lequel des territoires est le mieux à même aujourd'hui ou dans un proche avenir de tirer profit de cette évolution du système. Est-ce que vous savez répondre à ça? Lequel des territoires est le mieux à même de tirer profit de l'évolution du système que vous avez brillamment décrit?
Bien, écoutez, je crois qu'on est Je n'y fais pas d'opposition ou de contradiction. Je n'y vois pas de contradiction parce que, encore une fois, travailler sur sa propre identité et travailler sur sa créativité, c'est une possibilité avec les réseaux, mais à partir de cette identité, de développer quelque chose par le mixage et par le relationnel. C'est d'ailleurs la question de l'association. Quand vous prenez précisément la question de l'association, c'est le primat de l'individu. L'association, c'est j'apporte, voilà, je vais apporter quelque chose, moi. Et puis, bon, je vais voir comment ça s'agrège avec les autres. Et est-ce que ça peut s'agréger avec les autres ? Mais oui, mais aujourd'hui, vous avez des jeunes qui vont dans les associations, qui disent, attendez, moi, si je ne peux pas me faire entendre, je sors, je m'en vais, je fais du zapping. Et donc, le travail d'agrégation, c'est ça le travail du territoire. Et ça, ce travail du territoire, autant il peut partir de l'individualité, autant il n'a pas de raison de rester bloqué dans les limites d'un territoire. Il peut très bien continuer à essaimer. Et au contraire, les plus fabuleuses histoires économiques sont, comme vous le savez, des choses qui sont parties de petits territoires et de petites spécificités locales et qui ont essaimé de manière extraordinaire. Donc, les grandes entreprises françaises comme le Club Méditerranée sont parties de petites aventures personnelles, de facteurs identitaires qui ont après formidablement essaimé. Donc je crois que non, il faut de la même manière, alors puisque vous parlez d'une entreprise, vous êtes chef d'entreprise, de la même manière qu'un chef d'entreprise a le même raisonnement, il souhaite que la personne travaille sur sa propre créativité, sur ce qu'elle peut apporter de mieux. Vous ne pouvez pas le déterminer à l'avance, vous ne le savez pas. Donc, mettre la personne dans les meilleures conditions pour qu'elle apporte sa créativité. Et après, vous, votre rôle, c'est de voir comment ce meilleur peut s'agréger à quelque chose d'autre et à faire du collectif et à s'étendre, le plus possible. Mais si tout le monde joue ce jeu-là, mais ça suppose un sacré jeu. Parce que, regardez, c'est un jeu horizontal, c'est plus un jeu vertical. Alors, qu'est-ce qui est prêt à jouer ce jeu horizontal et pas ce jeu vertical, hein? Où est le chapeau dans cette affaire? Donc le chapeau, on voit très bien où il est. Il est surtout dans un pays comme la France, qui est un pays qui est horriblement statutaire et qui fonctionne sur un élitisme républicain passé de mode, enfin sur, pour bien des aspects, dans une société de la connaissance, et qui exige aujourd'hui le processus associatif de latéralisation et d'horizontalisation de la société. Il ne s'accommode pas de la verticalisation des institutions. On est dans une espèce de schizophrénie où les gens sont de plus en plus se considèrent de plus en plus comme des individus. Ils ont raison, quand même. Ils se considèrent de plus en plus, au fond, comme des égaux à l'intérieur d'eux-mêmes, en tant qu'individus. Plus je me sens individu, plus je considère que je suis un égal de l'autre, même si l'autre a fait Polytechnique. Oui, mais moi, je fais mieux le gâteau au chocolat. Allez me déprouver que Polytechnique, c'est toujours mieux que le gâteau au chocolat. C'est pas sûr, ça dépend des circonstances. Donc, les gens se vivent dans cette horizontalité-là et vous leur collez des institutions qui restent résolument totalement verticales parce que ça arrange 10% de la population et que ça bloque tout un pays. Je trouve qu'à un moment, il faut le dire un peu franchement.
Une dernière question, ce que je me permettrais de poser, sauf s'il y en a une, on la prend. Quand vous avez commis cet ouvrage, vous aviez en tête l'imminence d'élection présidentielle, parce que c'est un ouvrage de sociologue, mais avec des partis pris forts, dont vous êtes fait l'écho à travers votre conférence. Vous aviez pour objectif de faire bouger les lignes, et puis d'ailleurs, quelles ont été éventuellement les réactions de candidats à la dite élection.
Je ne voudrais pas aller trop sur ce terrain, Sylvain, cool. Parce que, oui, vraiment très très peu, alors vraiment en deux mots, parce que là on touche un terrain sensible, et en plus, voilà, c'est l'actualité, donc je n'ai pas du tout sur un discours politique, en tout cas pas au sens...
Citoyen.
Au sens, oui, si c'est le cas, non, je n'ai pas le sentiment d'avoir été très entendu, si c'est la question que vous posez, je n'ai pas le sentiment, effectivement, que... Pour prendre pour prendre trois grandes questions politiques au sens très général, hein, ni droite ni gauche, encore une fois, voilà. Personne ne saura. La question de cette projection du travail, je ne dis pas nécessairement que j'ai raison dans mon approche du travail par le capital humain et par la compétence, et vous avez raison, je caricature un peu, j'en rajoute un petit peu, mais c'est vers ça qu'on va. Et si le politique n'est pas là pour réfléchir par rapport à 15, 20 ans, enfin, je veux dire, si ceux qui sont les pilotes de l'avion ne réfléchissent que, malheureusement, sur le temps qui est celui de leur mandat, effectivement, on rate quand même quelque chose. Et donc, la question de cette dynamique du travail, enfin, on nous a dit 1000 fois qu'on sortait du tunnel, on nous a dit 1000 fois, etc. À chaque fois, c'est pour retomber un peu plus bas. Donc, à un moment, il faut quand même ouvrir les yeux. Donc, cette question du travail n'est pas traitée, ou elle est traitée autour de ce truc fabuleux des 35 heures. Enfin, comme si la question, c'était celle de 35, 36, 37 heures. Je veux bien que ce soit vrai pour quelques industries, mais franchement, la question de la mutation du travail n'est pas là aujourd'hui. Elle est malheureusement, parce qu'on n'a pas trouvé les solutions, beaucoup plus profondes et importantes que ça. La deuxième question de l'éducation, il faut effectivement ouvrir beaucoup plus l'éducation au territoire. Ça, c'est le cas de le dire. Alors, on a essayé de le faire. Vous savez, la guéguerre qu'il y a eu entre jeunesse et sport et éducation nationale par rapport à ça. Pendant très longtemps, il y a eu les contrats bleus qui étaient poussés par certains ministères, freinés par d'autres, entre ceux qui voulaient garder le monopole de l'enseignement, puis ceux qui... Donc, il faut reconnaître que le livret scolaire doit devenir un livret de compétences comme le font les Québécois. C'est-à-dire qu'il faut apprendre que les enfants, on va leur délivrer un livret de compétences qu'ils auront à enrichir tout au long de leur vie VAE participante. Et ça doit être dès le départ, et de ne pas les stigmatiser uniquement sur des savoirs qui, par définition, seront des savoirs sélectifs. Et puis le troisième, donc ça c'est le deuxième chantier où je ne suis pas sûr d'avoir eu beaucoup d'écho. Le troisième chantier, c'est que malheureusement, la question de la société civique, ou de la citoyenneté, pour reprendre votre expression, cette question de la citoyenneté, qui avait quand même été abordée, et je ne monte pas le bout de l'oreille en disant ça, ne le croyez pas, mais qui avait quand même été abordée avec la thématique de la démocratie participative, il y avait au moins eu cette vertu dans la précédente élection présidentielle. Dans une société dans laquelle les citoyens se sentent de plus en plus partenaires parce qu'ils ont de plus en plus de moyens pour participer, je n'ai pas le sentiment qu'on ait beaucoup impliqué dans une nouvelle citoyenneté ou dans une nouvelle mode de participation. Alors l'élection présidentielle veut que ce soit un rapport uniquement avec le peuple et que les corps intermédiaires comptent peu. Je veux bien, mais je trouve que là, on n'a pas beaucoup progressé. Et puis sur le point qui m'intéresse le plus particulièrement, qui est celui des associations, eh bien très franchement, je n'ai rien entendu du tout, alors même que le tissu associatif a reçu l'ensemble des candidats, mais je n'ai pas entendu un vrai discours sur la société civique ou sur la société civile, et encore moins un discours sur les associations. Mais voilà, il reste à moi.
Ben, je vous propose de prolonger la réflexion à travers les conférences suivantes et la lecture de ce livre. Et qui laisse une impression différente de celle qu'a eue monsieur. J'étais particulièrement intéressé par votre interrogation sur le risque qu'il y avait de reprendre à votre compte, au fond, tout un vocable du monde de l'entreprise, etc. C'est l'impression inverse que l'on a à la lecture de ce livre, c'est-à-dire que certes, on y retrouve ces notions, mais abordées par le prisme du milieu associatif, et du coup, elles revêtent ces notions des couleurs différentes, elles ouvrent des perspectives, elles révèlent un potentiel différent de celui qu'elles donnent à voir dans l'usage qu'on en fait dans le cadre du monde de l'entreprise. Je ne sais pas si je rassure monsieur. d'exemplaires que vous pouvez trouver à la librairie La Belle Aventure, qui est, il faut le préciser aussi, partenaire maintenant hein, du cycle. La librairie a plusieurs exemplaires, donc vous pouvez les retrouver demain matin, parce que je crois qu'elle est fermée, hein, comme toute librairie digne de ce nom. Eh bien, merci à vous, et à dedans quelques mois, c'est-à-dire septembre, voilà, donc à bonnes vacances, et d'ici là... Jeanne, c'est toi qui as le mot. Ben voilà.
Oui, c'est pas parce qu'il y a deux mois, ou deux, trois mois même, même plus que ça pour la prochaine conférence, qu'il n'y a pas un certain nombre de travaux au sein du Conseil de développement. Et à ce sujet-là, moi j'ai été très intéressé par, alors c'est en complément, hein, par ce que vous avez dit sur les potentiels de développement. Les potentiels de développement, si j'ai bien entendu, ils tournent autour des questions de capital humain, de développement des connaissances et tout ça, et d'environnement. Et il se trouve que les principaux groupes que nous avons au sein du Conseil, et je pense que ce n'est pas un hasard si, au sein de cette société civile, eh ben, quand on réfléchit à quels sont les sujets sur lesquels on va travailler dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, eh ben, soit sorti du chapeau ce genre de sujet, parce que je pense que, contrairement à ce que peuvent penser un certain nombre de services économiques, ben c'est peut-être sur ces sujets-là qu'il faut insister si on veut s'en sortir, parce que malgré tout, il va quand même falloir trouver des solutions, parce qu'il y a toujours un certain nombre de jeunes qu'il y a derrière les plus anciens. Voilà. Merci de votre intervention. Merci. Et merci. Nous sera très utile d'ailleurs.
Merci bien.
Merci.
Merci de votre accueil. Merci. Merci.